franceinter.fr.
Patricia Martin.
Dans 47 maintenant, vous savez pas lire l'heure.
Ah oui, pardon.
Ouais, franchement.
Et derrière moi, la pendule.
Vous savez ce qui est important?
Ce qui est important.
L'important. C'est la rose.
Ah oui, d'accord, bien sûr.
Non, c'est pas ça.
Ah,
à la marathon.
Gilbert Bécaud.
Oui, absolument.
Mais voilà. Et c'est aussi surtout la rose.
C'est la préférée des Français.
Et oui, d'après un sondage, 33% des personnes interrogées plébiscitent les roses. Viennent ensuite les orchidées, les camélias et les pivoines.
Elle a effectivement été chantée, cette rose. Il y a des poètes qui s'y sont intéressés, également des peintres.
Elle a vraiment été célébrée, mais elle est aussi pour nombre de peuples la perfection absolue, la beauté achevée. Mais sa floraison dure peu aussi, nous rappelle-t-elle la brièveté de la vie. Peut-être est-ce pour cette raison que Victor Hugo se dit apaisé quand il en regarde une.
Alors, il y en a qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de la rose, c'est Antoine de Saint-Exupéry.
Oh, le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées.
Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose.
Ah, j'adore Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, il faut le savoir, qui quelques semaines à peine avant de mourir abattu à bord de son avion, déclarait qu'il aurait aimé être jardinier. J'ai toujours aimé cette petite phrase. Il écrit à un ami, il lui fait part de son refus de vivre dans un monde violent et il pense qu'il aurait été beaucoup plus heureux à cultiver un jardin. Alors revenons.
Enfin, je vous conseille pas de piloter un avion. Non,
c'est sûr. Alors, la rose, c'est vrai, est appréciée depuis toujours par les hommes et l'un des premiers à connaître les pouvoirs de séduction de la plante est Néron. Et oui, l'incroyable Néron qui dépense 4 millions de sesterces, soit environ 600 000 de nos euros.
Vous avez fait le calcul?
Oui, tout à fait. Je l'ai vraiment fait en plus. Pour couvrir les tables de pétales lors d'un banquet qu'il souhaite grandiose. 150 ans plus tard, l'empereur Elagabal, alors il est né à peu près aux alentours de 200 après Jésus-Christ, lors d'une fête incroyable, fait pleuvoir sur ses invités une telle quantité de pétales que plusieurs personnes vont mourir étouffées.
C'est vrai? Sous les pétales de rose?
Non, mais je vous assure que c'est vrai.
Alors, ça risque pas de nous arriver, nous, dans ce studio. Il y était. Plus proche de nous et plus festif, hein, c'est le milliardaire Günther Sachs, hein, quand il est tombé amoureux de Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'il a fait?
Eh ben, pour déclarer sa flamme, il survole en hélicoptère la Madrague, et là c'est très très glace, il disperse d'en haut des milliers de pétales rouges.
Coup de l'opération?
Comment?
Coup de l'opération?
Non communiqué.
Mais enfin, tout de suite, vous êtes incroyable.
Non, je sais pas, on parlait plus de
récemment. Parlons
d'amour,
on parle d'amour, de poésie, de jolies choses. Quelques citations pour terminer.
Baiser, rose trémière au jardin des caresses.
Ça, c'est Paul Verlaine.
Et elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin.
François de Malherbe.
Le premier qui compara la femme à une rose était un poète. Le second, un imbécile.
Gérard de Nerval.
Pour connaître la rose, quelqu'un emploie la géométrie et un autre emploie le papillon.
Paul Claudel.
Ce n'est pas parce qu'il y a une rose sur le rosier que l'oiseau s'y pose, c'est parce qu'il y a des pucerons.
Jules Renard.
Et ma citation préférée, elle est signée Michel Chrestien. Les crocodiles vivent 100 ans, les roses 3 jours. Et pourtant, on offre des roses.
C'est super. Non, vous voulez donner votre conseil de lecture tout de suite.
Ah bah écoutez, oui, c'est Hubert Fontaine, bien connu de nos amis de France Bleu. Hubert Fontaine, jardinier qui officie également dans la revue Rustica, qui vient de publier un ouvrage que j'ai lu, que j'ai apprécié. Cultiver ses tomates sous serre et en plein air. Cet homme, on le voit souvent sur des vidéos sur Internet, sait de quoi il parle. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Il est très doué, très compétent. C'est un vrai, je ne dis pas que je ne le suis pas, mais c'est le vrai jardin. Parce que
personne
l'a dit en même temps. Certains d'ailleurs le disent ou le susurrent, mais bon, je suis un vrai jardinier. Mais c'est vrai que Hubert le jardinier fait partie de ceux que l'on prend plaisir à écouter. Ses conseils sont suivis et sont à suivre. L'ouvrage Cultiver ses tomates sous serre et en pleine terre, et c'est publié aux éditions Noir Terre.
Voulez-vous que je vous dise, est-ce que vous auriez envie de rendre une femme heureuse ce matin?
Oui, j'en ai l'habitude, mais...
Offrez ce livre à Isabelle de Gomain, elle louchait dessus tout mais à l'heure.
Je le fais
en train de le lorgner.
Immédiatement.
Ah, quand même. Et
comme ça, je vais pouvoir cultiver mes tomates sur ma terrasse parisienne, mais, c'est formidable.
Mais, ben voilà. Tout à fait. Bah, écoutez, quitte à faire plaisir, je vais faire plaisir, moi, ce matin, à Hervé Marianne, qui m'écrit une petite lettre, charmante, il parle de figuier, et il ne se rappelle plus le nom de l'insecte qui féconde les figuiers. J'ai reçu la lettre ce matin en venant vous retrouver avec enthousiasme Patricia. Alors donc, je rappelle le nom de l'insecte pollinisateur. C'est une sorte de petite guêpe qu'on appelle blastophage. Voilà, c'est et ça. Donc à se souvenir.
Combien de temps faut-il patienter pour voir disparaître naturellement la souche d'un arbre, voudrait savoir Louise.
Fernand Reynaud aurait certainement répondu un certain temps. Eh bien, tout dépend de l'arbre, tout dépend bien sûr de du diamètre de la souche. Un bouleau, par exemple, la souche d'un bouleau, mettra une petite trentaine d'années avant de disparaître en totalité. Un chêne centenaire, par exemple, va mettre un siècle avant de voir sa souche disparaître. Tout dépend, bien sûr, aussi de l'état d'humidité de la terre. Alors, il existerait quantité de techniques pour faire disparaître ou accélérer la décomposition d'une souche. Attention, tous ces produits dits débroussaillants, dévitalisants que l'on met dans la souche, c'est terrible, redoutable pour l'environnement. On oublie. On dit aussi qu'il suffirait de faire un trou à la perceuse et de mettre de l'ail au milieu. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnerait.
Si y a un vampire au milieu, ça marche.
Et ben, là on est d'accord. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'extraire. Mais je rappelle également que parfois, quand on a des souches, au lieu d'arracher et d'évacuer, ce n'est pas toujours simple. Pourquoi ne pas utiliser la souche comme support? Alors, je ne parle pas, comme le fait ma maman, par exemple, de couper la souche à un mètre et de mettre un pot de géranium. C'est un peu particulier. Mais on peut, par exemple, mettre des rosiers lianes par-dessus qui vont utiliser la structure du végétal pour se maintenir des plantes grimpantes. Avouez que des clématites en fleurs, du jasmin, hein, du chèvrefeuille...
En ce moment, il y en a plein. Ça sent bon, magnifique. Même dans les rues de Paris, ça sent le chèvrefeuille et le jasmin.
Mais donc, pour répondre à la question, il faut un petit siècle pour voir disparaître en totalité dans une terre normale, la souche d'un chêne centenaire.
J'ai appris qu'il y avait des termites dans ma région. Y a-t-il un risque pour les arbres, voudrait savoir Bernard.
Alors, logiquement, les termites s'intéressent au bois quand il est mort et pas le bois des végétaux. Les termites adorent les poutres, adorent les maisons, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu de termites dans un arbre, donc je ne crois pas qu'il y ait de danger. Mais la termite est un sujet sérieux, on ne plaisante pas avec les constructions, donc à vérifier. Mais logiquement, non, il n'y a pas de termites dans les arbres.
Martine a une pelouse. Cette pelouse est envahie par la mousse. Comment la faire disparaître et laisser à l'herbe une chance de repousser?
Je crois qu'il est bon de temps en temps de se poser la question, pourquoi y a-t-il de la mousse sur une pelouse? C'est un petit peu comme les personnes qui ont mal au crâne en permanence et qui ne cessent de prendre des comprimés d'aspirine. Très bien, mais à un moment donné, il faudrait peut-être connaître les raisons du problème. Quand vous avez de la mousse sur une pelouse, c'est généralement dû à un excès d'humidité ou à un manque d'ensoleillement, ce qui d'ailleurs souvent est lié. Alors on va vous dire qu'il suffit de mettre du sulfate de fer, que l'on trouve dans le commerce, pour éliminer la mousse. Attention, je le dis et je le répète, attention, le sulfate de fer tue la mousse, c'est vrai, mais il acidifie la terre.
Et il ne tue pas les souches des arbres.
Non, mais l'acidification de la terre favorise le retour de la mousse. Et de la mouche, si c'est très humide, également.
Et donc, mettre de l'aspirine, non, ça ne marchera pas.
On évitera l'aspirine pour ce qui est des pelouses.
Arrêtez voilà.
Il faut donc également ramasser à l'automne les feuilles. C'est joli, les feuilles mortes à l'automne. Mais... elles font un tapis sublime sur la pelouse. Mais cette petite pellicule, surtout à l'automne, empêche l'eau dans la terre de s'évaporer, accumulation d'humidité et apparition de la mousse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est refaire la pelouse, gratter, mais se dire que si la mousse est venue, j'ai bien peur qu'elle revienne. Voilà. Mais tout dépend également de ce que l'on fait de son gazon. Si c'est pour voir jouer des enfants, si c'est simplement pour une question esthétique du verre des fenêtres de sa maison, ce n'est pas très gênant que ce soit de la mousse.
Et puis marcher pieds nus dans la mousse, c'est bien.
Oui, c'est très doux. Et vous avez raison, Pierre. Le seul problème, c'est que quand on se roule dans la mousse, c'est un peu tachant.
Rapidement, la racine d'un cèdre fait excroissance sur une voie de passage. Il est envisagé de le couper, mais est-ce raisonnable? Ça, c'est une question
de
Michel.
C'est ridicule. Si la racine cause un véritable problème, et si on pense couper l'arbre, pourquoi ne pas déjà commencer par couper la racine et voir, l'arbre va peut-être supporter. Il vaut mieux couper une racine et constater la suite plutôt que d'abattre un arbre qui, lui, ne demande qu'à vivre. On peut peut-être également, parfois, surélever l'allée, tout simplement. On ne va pas systématiquement couper les obstacles. De temps en temps, on met des planches, on surélève, on fait en sorte de préserver le végétal. Vous savez, les cèdres ont une espérance de vie de quelques milliers d'années. Apprenons davantage à respecter les arbres. Ils le méritent, je crois.
Alain Baradon, vous revenez demain matin, je crois.
Mais alors, avec une joie, vous n'avez pas idée.
Vous restez quand même pour écouter Laurent Delmas.
Avec beaucoup d'intérêt.